France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
Il y a ce léger frisson, cette eau un peu trop fraîche et nos mollets qui tressaillent, mais aussitôt cette sensation de liberté, ce sentiment, comme l'écrit Chantal Thomas, d'être coupé du monde. La baignade, un sport, un loisir, un rituel estival, pour beaucoup, un indispensable de l'été. Mais alors que 40% des Français ne partent pas en vacances, chaque année se pose la question de l'accès à la baignade partout, pour tous, avec la reconquête des cours d'eau, des rivières et des fleuves. Exemple le plus marquant cet été à Paris, bien sûr, où l'on peut désormais plonger dans 3 sites dédiés. L'enjeu est social et environnemental. Trouver des îlots de fraîcheur quand les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents, améliorer la qualité de l'eau également pour se baigner et protéger la biodiversité. Environnemental et social aussi, quand le nombre de piscines privées explosent et quand dans certaines communes rurales, on ferme l'été les piscines publiques, faute d'argent ou de maîtres nageurs. Et puis un enjeu de santé publique avec ce nombre de noyades qui fait frémir encore cet été. Alors faut-il apprendre plus, apprendre mieux à nager? Faut-il un savoir spécifique pour nager en milieu naturel? Tout ça c'est important car on se le racontera aussi ce soir, la nage, ce n'est pas une activité totalement comme les autres. Elle inspire depuis longtemps les écrivains, depuis quelques années encore plus les écrivaines qui y voient un retour au corps, dans l'eau, se sentir libre, se sentir soi. La nage se fait parfois poétique et philosophique. Et vous, où vous baignez-vous cet été? Dans quelles conditions? Racontez-nous votre rapport à l'eau, à la nage. Nous avons jusqu'à 20h pour en parler. Venez nombreux, appelez-nous 01 45 24 7000 par téléphone ou WhatsApp.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite avec nous, nous avons Serge. Vous êtes à Pantin, enseignant à la retraite. Bonsoir Serge.
Oui, bonsoir. Oui, dans le département qui compte le moins de piscines.
C'est vrai, la Seine-Saint-Denis.
Voilà, ça fait le lien avec l'excellente introduction que vous venez faire. Oui, c'est un enjeu évidemment de santé publique, un besoin vital de reconquête écologique évidemment, mais aussi l'héritage de Paris 2024, comme tout le monde le sait. Et dans cette histoire, qui a accès évidemment à la natation, parce que c'est quand même en eau profonde et non pas baignade comme sur les plages où on a pied. Et donc, est-ce que la question des inégalités et du savoir nager est posée dans cette extension? Et avec, comme vous le venez de le dire, les 200 décès, c'est-à-dire le double de décès par noyade depuis juin 2025, le double de l'an dernier, et puis l'appel essentiel d'Alain Bernard et Florent Manaudou sur l'apprentissage de la natation.
Donc, ouais, dans une tribune qui vient d'être publiée, exactement.
Voilà, absolument, ouais. Absolument, et qui est vraiment de notoriété publique et qui est très très important à mes yeux comme ancien enseignant. Voilà, je vous ai tout dit.
Merci beaucoup. Serge, vous êtes allé vous baigner dans la Seine, si vous êtes encore avec nous, juste une petite question.
Non,
pas encore.
J'ai la piscine. Tous les jours, mais non,
pas encore publique. La Seine. Pas encore la scène.
Pas encore.
Eh ben merci beaucoup Serge. Pour en discuter avec nous de tous ces sujets, parce que c'est assez vaste finalement le sujet de la baignade, nous avons avec nous Emma Aziza. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être là. Vous êtes hydrologue, docteur de l'École des Mines de Paris, présidente fondatrice de Mayanne Resilience Center, un centre de recherche-action sur l'adaptation climatique. Et puis en ligne, Roberto Eplé. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Alors vous êtes hydrobiologiste et militant, président de l'ONG European River Network, de l'association SOS Loire Vivante, et vous avez passé pas mal d'années finalement à défendre les rivières et puis les fleuves. On va tout de suite parler de la Seine quand même, parce que c'est peut-être l'image un peu marquante de l'été quand on parle de baignade, ce fleuve qui se réouvre ainsi à la baignade après 100 ans où c'était interdit. Emma Aziza, quel regard vous porter déjà sur cette baignade qui recommence dans cette scène?
Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà les moyens qui ont été mis, qui ont pu d'ailleurs être mis parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques, et ces moyens colossaux qui ont évité justement tous ces risques qui sont liés à ces pluies récurrentes, ces pluies qui, lorsqu'elles tombent sur le sol, eh bien, elles vont emporter un certain nombre de polluants avec elles, qui en général finissent très rapidement dans les cours d'eau. Et donc tout le travail qui a été mis en œuvre par la ville de Paris avait déjà pour objectif de limiter ces pollutions, et notamment de limiter les pollutions à l'amont, parce que ce que l'on retrouve dans nos cours d'eau, c'est en général les rejets qui viennent des villes qui elles-mêmes ont consommé de l'eau encore bien plus à l'amont et qui ont utilisé cette eau et ces eaux usées finalement. Eh bien, c'est un peu tous les modes de vie de nos sociétés, que ce soit des médicaments, que ce soit derrière des hormones, que ce soit finalement tout ce que l'on peut avoir dans nos vies, que l'on ingère, eh bien, on va le retrouver dans nos cours d'eau. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a une étude récente qui vient de sortir qui met en évidence, il y a quelques mois, que parmi les deux molécules qui restent le plus présentes dans les fleuves européens, eh bien, on retrouve des molécules qu'on a principalement dans nos gels douches, dans nos shampoings, et notamment des molécules, des médicaments directement qui vont être persistants dans l'eau. Donc, on voit à quel point il y a une interaction directe. Donc, ça veut dire que dépolluer les cours d'eau, c'est aussi dépolluer nos modes de vie. Donc, c'est vraiment un chantier qui est colossal.
Oui, c'est un chantier colossal, et là, qui est plutôt réussi, vous diriez, quand même, parce qu'on a eu beaucoup de doutes sur cette dépollution de la Seine et qu'on puisse s'y baigner.
Alors, ça a été compliqué, parce que je trouve que dans l'image que ça a traduit, on a vu qu'on n'a vraiment pas eu de chance, parce que la météo était vraiment pas en direction de cette faisabilité.
Notamment l'an dernier, pendant les Jeux Olympiques.
Pendant les Jeux Olympiques, on se rappelle notamment à quel point on avait d'un côté les Jeux Olympiques avec cette vision très idéalisée qu'on a du sport, qui promeut le bien-être, qui promeut la santé d'un côté, et puis la réalité des risques, en fait, qu'on a directement liés à la question de l'eau. Et on se rappelle de cette triathlète belge qui notamment avait attrapé une Escherichia coli, et puis derrière des syndromes gastro-intestinaux. En fait, on voit à quel point on a des doutes sur la confiance que l'on peut donner à l'eau, notamment des questions de turbidité. Quand vous n'avez pas une eau claire et translucide, eh bien, c'est des questions qui se posent. Donc, je crois que c'est une confiance qu'il faut retrouver. Mais le chemin, en fait, on est en bon chemin, mais on a encore tout un travail à mettre en œuvre devant nous.
Roberto Eplé, je me retourne vers vous. Avec quel regard vous voyez cette reconquête de la Seine? Vous, qui organisez avec votre association, par exemple, ce qu'on appelle des big jumps, vous allez nous expliquer un peu, mais qui sont en gros l'idée de sauter en même temps tous ensemble avec des citoyens dans des cours d'eau, des rivières, des fleuves, pour justement qu'on se reconnecte. J'imagine que pour vous, c'est une bonne chose quand même, une belle image de voir ces gens se baigner dans la Seine.
Oui, tout à fait. C'est évidemment, comme on dirait en anglais, showcase, donc un cas d'étude presque, qui était très très médiatisé, et nous en sommes contents. Après, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'était au prix d'efforts importants qu'on a pu obtenir une qualité d'eau suffisante pour pouvoir se baigner. Mais j'aurais dit, de toute façon, c'est normal. Il faut, selon la législation européenne, que tous les États membres de l'Union européenne remettent leurs rivières et eaux de surface en bon état. C'est une obligation. Donc, ce n'était pas extraordinaire. C'était juste quelque chose qu'il fallait faire. Mais les Jeux Olympiques ont aidé à mieux passer, si vous voulez, les crédits. Ça, j'en suis convaincu. Mais il faut continuer et partout.
Mais alors, c'est un effort qu'attardé, non? Parce que vous êtes Suisse, pour ne rien cacher aux auditeurs. En Suisse, on a vraiment cette habitude de la baignade urbaine. Il y a plusieurs villes où vraiment les gens se baignent au quotidien, et c'est totalement normal.
Oui, vous avez raison, la culture des baignades en rivière s'est jamais perdue, contrairement à beaucoup d'endroits en France, même si ce n'est pas partout. Il y a des endroits en France où on continue à se baigner. Mais c'est pareil en Allemagne. Mais c'est aussi de façon compréhensible, parce qu'en Suisse, les rivières, les fleuves qui prennent source en Suisse sont encore pas si pollués quand ils passent dans les autres pays à Bâle. Par exemple, le Rhin à Bâle, ensuite il est pollué à partir de Bâle, il est beaucoup plus propre. Ah bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est sur le tête de bassin plutôt en Suisse, où la qualité d'eau est meilleure. Mais c'est vrai, on se baigne jusqu'à aujourd'hui partout. Mais moi, à Zurich, dans la ville de Zurich, j'ai appris à nager. Alors, nous venons, notre association que je préside, plutôt de la protection des rivières. Et puis, figurez-vous, dans les années 80-90, quand les fleuves d'Europe, ils étaient à l'agonie, hein, c'est le mot de le dire, et la Seine aussi, nous avions essayé de créer une vision un peu positive de ce que ça voudrait dire remettre les rivières en état, en bon état, c'est-à-dire de pouvoir repêcher des poissons dans une rivière et les manger, pouvoir nager dedans. C'est pour ça qu'on a créé une grande opération Big Jump qui est née sur l'Elbe dans le cadre de la réunification de l'Allemagne, qui a depuis été chaque année répétée avec des dizaines de milliers de personnes chaque année, avec plus que 1500 événements jusqu'à maintenant, pour créer cette vision que d'investir dans les politiques publiques, de remettre les rivières en bon état, ça paye. Aussi pour l'homme. Après le castor et la loutre, c'est l'homme qui va dans la rivière.
Oui, c'est ça. Ça retisse un lien, en fait, finalement, des citoyens avec leurs cours d'eau et ça les fait se préoccuper de l'état de ces cours d'eau, si je comprends bien.
Tout à fait.
Emma Aziza, il y a des enjeux. On parle de cette baignade urbaine. Je voudrais un peu élargir quand on réaménage des cours d'eau un peu partout en France pour que les gens puissent se baigner. Il y a un enjeu environnemental, je le dis dans mon introduction. Vous êtes d'accord avec ça? C'est nécessaire dans une période où il y a notamment de plus en plus de canicules qu'on mette des politiques publiques pour réinvestir ces cours d'eau?
Oui, on parle de plus en plus de solutions qui vont permettre de s'appuyer sur la nature et notamment le fait de retrouver les méandres initiales, donc les courbes naturelles du cours d'eau. Eh bien déjà, ça va avoir un premier effet, c'est sur le risque d'inondation. On voit très bien que ce risque est en train d'augmenter au fur et à mesure que l'atmosphère se réchauffe. Eh bien, le pouvoir précipitant des nuages augmente. On a de plus en plus de risques d'inondation qui couvrent d'ailleurs bien au-delà des zones inondables. Donc parce que l'arrivée de la pluie est beaucoup plus violente, elle ruisselle beaucoup plus rapidement et donc avec les enjeux qu'on a derrière. Donc on sait à quel point il va y avoir beaucoup d'enjeux et quand vous mettez des courbes, eh bien vous freinez cette vitesse. On a eu une période très importante où on a cherché à canaliser les cours d'eau. Il fallait les dominer, les contrôler. J'ai presque envie de dire que ça remonte à l'époque de Staline d'ailleurs, où à l'époque, quand on avait des grands enjeux entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique, eh bien, il fallait dompter les cours d'eau, les récupérer. Ça a été le cas quand on a détourné la mer d'Aral. Et puis en France, ça a été surtout la canalisation. Il fallait les rendre rectilignes, premièrement pour des raisons de navigation. Et donc, c'est à partir de là qu'on a d'ailleurs perdu nos baigneurs, parce qu'on a vraiment trois phases. On a une première phase où d'abord, le lien entre l'homme et le fleuve est naturel. Il faut quand même savoir que depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, on avait la plupart du temps une absence de salle de bain et dans la plupart des foyers français. Et donc, les gens allaient se baigner dans les rivières directement. Il y avait même des lieux qui étaient aménagés. Et la première des raisons qui fait qu'on va arrêter violemment d'un coup de pouvoir aller se connecter au cours d'eau, c'est une question de mœurs et de pudeur. Et donc, ensuite, eh bien, il y a cette industrialisation, cette canalisation qui fait qu'à un moment donné, il faut choisir entre les bateaux et l'homme. Et donc, on va choisir la navigation fluviale. Et donc, c'est à partir de là qu'on va augmenter ce risque et tous les risques qui vont être liés avec. Parce que un cours d'eau qui est rectiligne, c'est un cours d'eau qui est beaucoup plus soumis au risque de sécheresse. On voit très bien, il y a des études récentes qui montrent que les cours d'eau européens, les débits sont en train de diminuer de manière drastique au fur et à mesure des sécheresses. On a même des cours d'eau qui deviennent intermittents. Les fleuves sont extrêmement touchés. C'est des choses qu'on n'imaginait pas. Et donc, c'est vrai que, aujourd'hui, on va devoir aller vers ces solutions parce que c'est la base de l'adaptation climatique qu'on va devoir mettre en œuvre.
Roberto Eplé, j'ai Sylvie qui me laisse un message là sur WhatsApp. Elle me dit « J'en ai un peu marre de voir que des zones naturelles comme des étangs ou des rivières soient aménagées pour devenir des zones de loisirs. Ces aménagements ne sont pas compatibles avec le respect de la biodiversité. » Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de reconquête des cours d'eau. Est-ce qu'il faut y poser des limites ?
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie. Il ne faut pas installer des points de baignade de partout. Ça ne sert à rien. Et il y a des lois qui existent pour la protection des écosystèmes. Je faisais allusion tout à l'heure à la loi directive cadre eau européen qui oblige le bon état. Donc, il faut bien choisir les endroits où on permet la baignade contrôlée ou d'autres, probablement qu'elle soit interdite. Mais alors, si interdite, il faut expliquer pour quelles raisons. Ça nous amène peut-être à un sujet plus tard qui est le rapport de la France, notamment avec la réglementation et d'autre part les usages comme la natation qu'on peut avoir de la nature.
Allez, avec nous au téléphone sonne ce soir, il y a Charlotte. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous, je crois que vous vous baignez dans la Loire, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Ça fait quelques années que j'habite à Tours. Et très vite, mes amis m'ont emmené me baigner dans cette Loire qui est vraiment magnifique, qui est hyper naturelle. Toute la ville est vraiment tournée vers le fleuve. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas le droit encore de se baigner dans la Loire. Alors, il y a des projets qui mériteraient de voir le jour. La ville est en train de rechercher des espaces pour sécuriser tout ça et permettre aux gens de pouvoir s'y baigner. Mais aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a que des plages où il y a des familles, il y a des amis qui font bronzette, qui jouent et qui se baignent aussi, même si pour l'instant, ça, c'est pas encore autorisé officiellement.
Ça serait important pourquoi, selon vous, de réaménager, de pouvoir s'y baigner? Par exemple, vous, dans votre quotidien, ça serait un bénéfice? Est-ce que, voilà...
En termes de qualité de vie,
ouais, en termes de...
on a quelque chose qui nous permet de passer l'été confortablement. Et puis, c'est un espace qui est naturel, qui est beau, qui fait partie aussi de l'identité de Tours et en général de la vallée de la Loire. Et donc, on a tout intérêt à nous, habitants, avoir conscience des risques et aussi s'impliquer dans notre contexte, qui est un contexte aussi naturel, quoi, pas uniquement citadin.
Roberto Eplé, vous êtes de votre association SOS Loire Vivante. J'imagine que ça vous parle, le témoignage de Charlotte.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que notre association, quand elle travaille sur la Loire, SOS Loire Vivante, elle s'appelle, on s'est beaucoup engagé pour que cette baignade devienne possible. Mais il faut connaître quand même les raisons pourquoi la Loire est un cas un peu spécial. C'est dans l'histoire de la baignade un événement très très grave qui est amené à la situation d'aujourd'hui où la baignade est interdite quasiment de Nantes jusqu'en amont d'Orléans. C'est des accidents graves qui se sont produits, je me rappelle d'une classe, je crois que 13 enfants, si je ne me trompe pas, qui sont décédés, qui sont noyés lors d'une baignade. Et ça, évidemment, c'était un choc qui a fait à ce qu'on interdisait la baignade partout. Parce que la Loire, et comme toutes les autres rivières d'ailleurs aussi, ils sont des endroits magnifiques. Riche, beau, invite à baigner, mais ils peuvent aussi être dangereux. Et c'est quand on ne sait pas se baigner dans une rivière, c'est là où ça peut devenir dangereux. Notamment avec les sables mouvants et d'autres phénomènes qu'on ne s'attend pas. Et d'ailleurs, sachant aussi qu'une rivière, un jour, elle peut être basse, un jour, elle peut être haut, elle peut être à beaucoup de courant, au mois de courant, elle n'est jamais pareille. Donc, il faut apprendre à lire les rivières et savoir où se nager.
Alors, justement, on apprend où? Parce que vous abordez un point très intéressant. Il y a eu énormément de noyades depuis le début de l'été. Je crois qu'on est à 200 morts. Les adultes, notamment, se noient plus dans des milieux naturels qu'en piscine. Comment on fait pour sensibiliser les adultes qui pensent savoir nager, mais en fait qui ne se rendent pas compte des dangers qu'il peut y avoir dans un fleuve ou une rivière?
Oui, tout d'abord, quand on va se baigner dans un milieu naturel, il faut d'abord savoir nager et bien nager. Sinon, on ne peut pas y aller. Ça, c'est la condition de base. Deuxièmement, il faut connaître les lieux. Souvent, les populations locales, ils savent où on peut faire ça. Troisièmement, à des endroits où c'est interdit, vraiment interdit, il ne faut pas y aller. Et quatrièmement, à mon avis, c'est aussi auquel les collectivités, les maires, les mairies, tout d'abord, les communes, etc., qui pourraient, si vous voulez, prendre l'initiative pour dire là on se baigne, là on ne se baigne pas. Et ensuite faire respecter. Par aujourd'hui, si vous survolez en été la Loire, c'est noir du monde et plein de gens qui se baignent. Pourtant, la baignade est interdite. Et ça, c'est une mauvaise chose. Il faut l'interdire, le faire respecter ou la permettre au moins au risque personnel et d'informer que cela est possible par-ci ou par-là. Pas comme aujourd'hui on interdit, on laisse faire. C'est ça qui est dangereux. Et il faut former. Il y a quelque part à faire un permis, si vous permettez l'expression, un permis de nager. Personnellement, j'ai appris, je fais partie encore d'une génération qui avait cet avantage de pouvoir apprendre à nager dans les rivières et dans les lacs. Mais de plus en plus de gens, vous en faites certainement partie, beaucoup d'entre vous qui écoutent, qui ont été amenés à une piscine pour apprendre à nager. Donc on ne sait plus. Donc il faut réapprendre aussi à nager dans une rivière.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et vous écoutez, le téléphone sonne, on parle de la baignade ce soir. Où est-ce que vous vous baignez avec tous les enjeux environnementaux et sociaux qu'on imagine? Et en ligne avec nous, et j'en suis très heureuse, il y a Colombe Schneeg, bonsoir. Vous m'entendez, Colombe Schneeg? Ah, elle ne m'entend pas, je crois. Donc, sur la noyade, Emma Aziza, il y a un véritable enjeu. On entendait sur l'apprentissage. Vous, quelle est votre peut-être opinion, avis là-dessus? Comment on fait? On parlait des enfants qui apprennent la plupart en piscine. Il faut sensibiliser davantage au milieu naturel.
Alors oui, il faut qu'on puisse se reconnecter au milieu naturel derrière en comprenant les dangers. C'est cette culture du risque qu'il faut réintégrer. On voit bien que la plupart du temps, le persona qui a tendance à se noyer, c'est à peu près toujours le même. C'est plutôt un homme, plutôt jeune, donc qui a l'impression qu'il va pouvoir lutter contre le risque. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on regarde la mortalité en noyade en Suisse, on a 85% d'hommes entre 20 et 30 ans, souvent d'ailleurs liés aussi à des questions d'alcool. Donc il faut aussi former les jeunes, les étudiants qui vont en bordure de rivière. Mais on retrouve exactement le même type de personne qui va avoir tendance à se mettre en danger dans le risque inondation, puisqu'il y a eu des thèses de doctorat qui ont été menées là-dessus pour essayer de comprendre. Et on s'est rendu compte que c'était plutôt les hommes jeunes en 4x4 qui affrontaient le danger et qui ne voyaient pas le risque. Donc, on sait déjà au moins qui il faut viser. Et je crois qu'on a deux grands enjeux aujourd'hui. On a la question de la baignabilité qui est liée directement au risque de noyade. Et donc là, c'est vraiment une question de sensibilisation et d'accompagnement des populations. Et puis, on a un autre grand enjeu. Le premier, c'est vraiment dans les questions de zones de baignade libre, alors qu'on a un autre grand enjeu qui se retrouve plutôt dans les piscines fluviales qui ont de plus en plus, qu'on voit fleurir un peu partout en Europe aujourd'hui et qui ne présentent pas ces problématiques-là. Mais par contre, là, on a une question de qualité. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut d'un côté suivre en temps réel la qualité physico-chimique pour voir s'il y a des risques. Et là, on a encore tout un travail à faire parce que les niveaux d'alerte aujourd'hui qu'on a, et bien, mettre 24 à 48 heures, et c'est déjà trop tard si on s'est baigné. Et puis de l'autre côté, on a cette question effectivement de pouvoir aborder la rivière et le fleuve comme une zone aussi de danger et pas seulement que de baignade et de plaisir. Et ça permettrait en fait d'éviter effectivement toutes ces catastrophes que l'on a et qui s'accumulent année après année.
Ah, et nous sommes avec Martial, vous êtes en Dordogne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous baignez dans une rivière, hein, c'est ça? Parce que la communauté de communes a fermé les piscines? Expliquez-nous.
Oui, c'est ça. On a une des plus belles rivières de France qui s'appelle la Dronne, qui est très pure. Mais nous avions aussi deux très jolies piscines publiques, très très anciennes. La première date des années 70. Et puis qui ont été laissés un peu comme ça, sans entretien. Et finalement, la communauté de communes a fermé nos deux piscines il y a 4 ans maintenant, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, on n'a plus de piscine publique aux alentours. Alors, une était à 9 km d'où j'habite. J'habite à Brantôme, et l'autre était à l'autre côté à 7 km. Vous voyez, c'était très pratique. Et puis, même enfant, moi, je suis vraiment un enfant d'ici. On y allait en vélo, le soir. Et puis nos enfants aussi y allaient comme ça, et puis ils ont tous appris à nager dans cette piscine, dans ces piscines, et puis aujourd'hui on va à la rivière, alors c'est très beau, hein, et bucolique. Moi je suis un adulte, comme disait votre intervenante, les rivières c'est magnifique, on peut nager, surtout la nôtre est très pure, mais l'an dernier j'ai sauvé la vie d'une petite fille qui était emportée par le courant. Sa maman était sur la berge, j'ai regardé son téléphone, et la petite fille, je l'ai attrapée. Et elle avait pas pied, quoi. C'est très dangereux, une rivière, c'est très, très agréable, et quand on est adulte, quand c'est nager. Et donc, on se retrouve à avoir la première piscine publique qui est à 25 km.
Et même en étant adulte, on le répète, il faut vraiment faire très attention, parce qu'on peut se faire surprendre. La piscine qui ferme, c'est aussi, j'imagine, pour les enfants du coin, une impossibilité d'aller apprendre.
C'est ça, c'est-à-dire que les enfants, non seulement n'apprennent plus à nager dans ces grandes piscines, dans ces piscines publiques, mais en plus, on voit fleurir partout des piscines qui ont plein de problèmes, écologiques, mais aussi un problème social, parce que dans la piscine publique, les pauvres et les riches se rencontrent, les étrangers, c'est-à-dire qu'on est pays très touristique, nous, on draguait les étrangères, c'est super, on apprenait l'anglais comme ça. Enfin, c'est un lieu de mixité sociale formidable, alors que maintenant, chacun est dans sa piscine. avec ses amis, sa famille, et puis voilà, on cloisonne encore plus notre société. C'est un lieu de cohésion sociale qui était très très intéressant et qui, nous, dans nos campagnes, finalement, on se retrouve abandonnés alors qu'on voit fleurir dans les grandes villes des grandes piscines publiques, ils en bâtissent d'autres. Et je pense que les gens, encore une fois, après les problèmes de médecins et autres problèmes, se sentent abandonnés, quoi. Alors, c'est dommage parce qu'on est un pays formidable et magnifique.
J'aimerais faire réagir à votre témoignage, Martial Colombe-Schneck, si vous êtes en ligne avec nous.
Oui, bonsoir. Désolée pour tout à l'heure.
Il n'y a aucun souci. Vous êtes journaliste et autrice. Vous avez publié, entre autres, un guide des piscines parisiennes qui s'appelle Paris à la nage. Vous êtes vraiment une nageuse. Vous allez nous l'expliquer, de piscines. Et j'aimerais vous faire réagir à ce témoignage de Martial. Ces piscines qui ferment dans beaucoup de communes rurales. Hein, il n'y a pas seulement dans sa commune à lui, en Dordogne. Est-ce que c'est véritablement une catastrophe? Toutes ces piscines qui ferment.
C'est une catastrophe. Oui, alors ça existe aussi dans pas mal de grandes villes ou de villes moyennes, où les villes, effectivement, n'ont plus les moyens, parce que d'abord, il y a la hausse du prix d'électricité, du gaz, qui a entraîné la hausse de prix du chauffage de l'eau. Et de plus apprendre à nager, c'est catastrophique. On a vu cet été qu'il y avait un très grand nombre de noyades. Hein, je pense que vous en avez parlé. Oui. Et puis, comme le rappelait Martial, la piscine, c'est un lieu de mixité sociale extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde est à la piscine publique. Tous les âges, tous les milieux, c'est un lieu de... Moi, je l'ai vécu, moi, je nage essentiellement à Paris, où j'habite. Je le vois, dans un café à côté, il y aura que des jeunes blancs, disons, et je vais à la piscine à côté, il y aura tout le monde. Il y aura vraiment un mélange d'âge, de milieu social, de genre, et c'est vraiment... parce que c'est pas un sport très cher. À Paris, c'est 3,50€ l'entrée à la piscine, mais il faut quand même avoir appris à nager, et on apprenait tous à nager, c'était une obligation. De plus grandes noyades dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu des plans publics très importants pour que tous les enfants apprennent à nager, et aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, et c'est un grave problème.
C'est un grave problème de santé publique.
Oui.
J'en profite peut-être pour vous avoir, parce qu'on parle depuis le début de l'émission du fait de l'importance d'avoir des accès à la baignade pour tous. Peut-être presque plus philosophiquement qu'une question de santé publique, pourquoi vous avez tant et vous aimez tant nager ?
Alors, je crois que c'est une question de santé publique. Je suis quelqu'un de très anxieux, d'un naturel assez anxieux. Et je me suis rendu compte qu'en nageant, mais je crois que c'est le cas de toute activité sportive régulière, mon niveau d'anxiété, disons, a réduit de 90%. C'est-à-dire que j'ai trouvé un apaisement, un sentiment de bonheur, d'être présente au monde que j'avais peu ou difficilement. Et ça c'est la plus grande joie de la nage, c'est-à-dire que vous sortez, si vous nagez régulièrement, mais ça marche aussi avec la marche, hein, ça marche avec d'autres activités sportives, si vous faites ça régulièrement, plusieurs fois par semaine, c'est pas la peine de se forcer, de chercher des choses difficiles, c'est juste respirer. Nager, c'est respirer.
Alors, il y a Andreas qui réagit à ce que vous dites. Il me dit « J'aime bien nager, mais j'ai un peu du mal à comprendre d'où vient cette idée que se baigner soit un indicateur important et fiable pour le bien-être et le bien-vivre des gens. »
Alors ça, c'est le goût de chacun. Moi, j'aime l'eau. Je suis quelqu'un qui se fie bien dans l'eau. J'adore ça. Oui. Mais si vous n'avez pas nagé, vous voulez marcher.
C'est vrai.
Courir, marcher, c'est bien. Marcher, c'est vraiment bien.
Et ça fait partie du top 3 des activités préférées des Français.
Oui. Voilà, c'est un goût personnel, intime. J'aime être dans cette eau un peu chlorée, un peu tiède. Je comprends qu'on peut trouver ça bizarre. Hein. J'aime ça, mais chacun... chacun sa joie.
Il y a un retour au corps, un retour à soi en nageant.
Oui, c'est qu'on se rend compte que c'est pas très français ni très européen, c'est qu'on a le sentiment que bon, on a un cerveau, on l'éduque, on lit des livres, on s'informe, et le corps, c'est quelque chose de secondaire, bah, qu'on traîne, quoi. On fait du sport, on fait des régimes, on essaie de bien s'en occuper, mais comme si le corps, c'était quelque chose de très secondaire. Et en nageant, je me suis rendu compte que tout ce que j'étais, c'est-à-dire que moi, ce que je crois, je pensais ce que je suis, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau, et bien non, ce que je suis, c'est aussi ce qu'il y a dans mon corps, et qu'il y a des liens entre, par exemple, quand je suis anxieuse, j'ai mal au ventre, voilà. Alors, et que nager, d'avoir une activité sportive régulière, eh bien, avait des liens directs avec ce que j'avais dans la tête, avec ce qu'il y avait dans mon cerveau. Ça a changé la façon dont j'écris. Par exemple, je suis écrivain, ça va. J'écris de façon différente, plus précise, plus juste depuis que je nage.
Eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage. On est en ligne aussi ce soir avec Eric. Vous êtes à Colmar, pas loin de la frontière allemande. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Qu'il y a une manière d'approche visiblement très différente entre la France et l'Allemagne?
Oui, alors c'est un tout petit témoignage, mais c'est vu sous l'angle un petit peu réglementaire. Oui. En fait, effectivement, en Allemagne, les plans d'eau, les cours d'eau, notamment le Rhin, sont à plusieurs endroits accessibles réglementairement. Il y a des gravières, par exemple, c'est complètement impensable en France, mais vous avez des gravières qui sont pour partie en exploitation, et puis l'autre partie est accessible au public. Donc en fait, il y a vraiment une possibilité d'accès, une offre beaucoup plus large. Il y a quelques plans d'eau qui sont accessibles côté alsacien, côté français, mais en fait, ils sont tellement peu nombreux et qu'ils sont surfréquentés, c'est pas agréable du tout. Et je pense que, indirectement, cette accessibilité au milieu naturel, elle est aussi favorable aux habitudes et à l'appropriation que les gens peuvent se faire de l'eau, de l'accès à l'eau en général. Donc du coup, je présume que ça a aussi une incidence sur le fait que les petits Allemands, ils apprennent à nager peut-être plus facilement, plus vite, plus jeune. Voilà. En tous les cas, c'est le sentiment que j'ai, moi, en tant qu'observateur qui peut avoir accès aux deux côtés. Et je pense également que la réglementation en France ne doit pas aider les maires, parce que si les maires, les élus locaux prennent ces décisions d'interdiction très généralisées, c'est très certainement également parce que pèsent sur eux des risques juridiques très très importants et ils ont envie de se couvrir. Je ne connais pas exactement la réglementation en Allemagne, mais c'est sans doute différent en Allemagne.
Emma Aziza, je vous vois hocher de la tête. Est-ce qu'il y a vraiment une notion différente entre Allemagne et France, peut-être au niveau de la responsabilité notamment?
Moi, je pense qu'on a chacun notre culture. Par contre, on est tous confrontés peu à peu là au même défi. C'est ce défi de l'adaptation climatique. On voit très bien que les températures et les vagues de chaleur ont tendance à se succéder. Et l'eau, c'est le plus grand des solvants universels mondiaux. C'est-à-dire qu'à la fois, il réchauffe, il refroidit, mais nos corps, ils nous aident justement à les réguler. Et donc, il y a un enjeu crucial à pouvoir conserver nos cours d'eau qui sont actuellement surexploités. Et je pense qu'il faut le dire, si on parle de la baignade et on parle de cette dimension très, très infime qu'est derrière la question du rapport de l'homme et du citoyen avec son cours d'eau, je crois qu'il faut aussi prendre la question de manière plus large. Quand moi, je regarde tous les fleuves, que ce soit en France ou partout dans le monde, eh bien, on se rend compte que toute notre économie est basée principalement sur les fleuves. Déjà, un tiers de toutes nos rivières et fleuves de France vont être utilisés principalement pour l'adduction en eau potable. Donc, la question de la pureté de l'eau et du fait de ne travailler sur les polluants, elle est absolument essentielle. Notre énergie est fonction directement de nos fleuves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie s'il n'y a pas de barrage hydroélectrique. Et on voit très bien que ces barrages, avec les températures qui se réchauffent, on a des développements de cyanobactéries, de salmonelles. C'est-à-dire dès que vous laissez une eau un peu croupissante, eh bien, il y a un enjeu, c'est aussi l'enjeu des bassines qui se pose aujourd'hui, qui est un enjeu crucial aussi à venir. Donc, en fait, il faut bien faire attention à cette question. Il va falloir traiter l'eau comme un écrin dans nos fleuves et comprendre que c'est toute notre économie, que ce soit énergétique, que ce soit l'intégralité de notre industrie qui s'appuie sur les cours d'eau. Aujourd'hui, si vous voulez fabriquer un sac à main en cuir, il vous faut une tannerie qui va s'appuyer sur une rivière, donc sur un cours d'eau. Et donc, au milieu de tout ça, il y a l'homme qui veut se reconnecter à la nature. On a ce besoin. On voit très bien que depuis les années 80, c'est vraiment l'élan citoyen qui a permis ce retour à la baignabilité. Alors, on a eu cette chance, quelque part, d'avoir les JO qui ont permis de mettre les moyens financiers assez importants pour se décider de lever des verrous qui étaient gigantesques, hein, parce que derrière, il fallait quand même travailler sur une ville comme Paris et ses risques de pollution diverses. Donc, je crois qu'on a un chantier devant nous, mais c'est vrai que au final, eh bien, si on arrive à retrouver peu à peu cette question de baignabilité, c'est un petit peu comme, vous savez, actuellement, il y a une méthode qui est extraordinaire, qui nous permet de comprendre la santé des cours d'eau en prélevant l'ADN que l'on a. Et donc, on s'est rendu compte, notamment, par exemple, sur la Seine, qu'on a certaines formes de moules et d'espèces de poissons qui sont en train de réapparaître et qui n'était pas là avant. Donc en fait, on peut très bien avoir un peu des Escherichia coli, c'est-à-dire une bactérie qui va passer par là peut-être, mais en tous les cas, sur du long terme, on voit les efforts qui sont faits, et donc ces efforts aujourd'hui, on doit les continuer, JO ou pas. Et c'est ça qui est essentiel.
Roberto Eplé, vous souhaitiez réagir sur cette différence de manière d'approche entre la France et l'Allemagne?
Oui, tout à fait. Et puis, il s'en paraît d'ailleurs une question de clé pour rétablir une baignade mieux organisée en France. Alors, pour revenir sur le Rhin, vous avez entendu tout à l'heure le témoignage. C'est vrai que si vous êtes dans le Dreiländereck, ça s'appelle donc l'endroit où se touchent la France, l'Allemagne et la Suisse, à Bâle, vous trouvez en Suisse des baigneurs qui se baignent sans la moindre réglementation, un peu plus en aval, la rive droite. En Allemagne, vous avez un peu de réglementation, et rive gauche, c'est interdit. On ne sait pas pourquoi, c'est possible. C'est la même rivière, c'est le même lieu. Okay, ça veut dire, quelque part, une approche très différente à interdire. Et j'ai l'impression, parfois, en France, que la réglementation n'est pas faite pour protéger le nageur, mais protéger les autorités. Mmh. C'est dur ce que je dis, mais j'ai bien cette impression. Et donc, il faut sortir de ce schéma, au plus vite, aider aussi aux maires qui sont en règle générale ceux qui peuvent autoriser oui ou non la baignade, d'avoir moins d'obligations, d'alléger peut-être le cadre réglementaire d'une côté et de l'autre côté, comme je vous ai dit, à certains endroits où c'est dangereux, vraiment l'interdire, et à d'autres endroits, la permettre avec un encouragement et avec des informations qui sont à fournir. Donc sinon, on va se baigner en France partout et plus en plus de gens vont y aller avec le changement climatique en été. Et puis on interdit de l'autre côté de plus en plus. Ça ne va pas. Donc il faut sortir de cette terrible logique.
Nous sommes en ligne aussi avec Aude. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
Et vous habitez entre Roanne et Saint-Étienne.
Oui, voilà, c'est ça. Je viens juste d'arriver dans la région il y a un an. Et je découvre la Loire. Je trouve ça une région vraiment magnifique. Et ça mériterait d'être un peu connu touristiquement, mais en fait, je me rends compte que la Loire, elle est complètement polluée par les cyanobactéries depuis le mois de juin. Et on peut pas du tout y mettre un pied. Même les chiens peuvent pas se baigner, sinon s'ils boivent l'eau, ils peuvent mourir. Il y a déjà eu deux morts de chiens. Et donc, en fait, on a un fleuve qui est magnifique. Il y a des structures pour faire du canoë et kayak, etc. On allait faire un petit peu de canoë, mais... En fait, c'est tellement croupi par les cyanobactéries que du coup, c'est écœurant. Et j'aimerais savoir, que peut-on faire pour sauver la Loire? Enfin, s'il y a une association ou quoi, moi, j'aimerais m'investir. Mais c'est vraiment triste, en fait, de voir un fleuve comme ça qui est tellement beau.
Alors, voilà, comment peut-on sauver la Loire? Je donne déjà la parole à Emma Aziza, mais je pense que notre autre invitée aura des choses à dire aussi.
Ah, je pense que la Loire, elle est confrontée à quelque chose, alors qu'elle a connu dans son histoire, mais qui revient de manière foudroyante, c'est ces sécheresses récurrentes. On l'a vu en 2022. Faut tout de même avoir en tête que en 2022, le bouchon vaseux, c'est-à-dire ce lien entre les eaux douces de la Loire et les eaux salées qui s'éjectent au niveau de l'exutoire, eh bien, sont remontés à 100 mètres de la station de potabilisation de la ville de Nantes. Donc on a failli avoir une ville comme Nantes qui a failli se retrouver sans eau potable. Donc c'est des choses assez nouvelles qu'on n'imaginait pas. On avait un peu l'impression que quand on regardait à travers le monde, on voyait le Mississippi et la Nouvelle-Orléans, on n'avait pas assez d'eau qui s'écoulait dans le cours d'eau. Et bien quelque part, ça mettait en danger la Nouvelle-Orléans, mais on pensait que ça ne nous atteindrait pas. Et on voit très bien qu'il y a une vraie question aujourd'hui de la quantité des débits. Et donc, les cyanobactéries, elles pullulent dans des endroits où les eaux croupissent et où il n'y a pas assez de courant. C'est le cas des bassines, c'est le cas de toute eau stagnante qui ne va pas avoir la biodiversité et les plantes drainantes qui sont suffisantes avec le courant pour oxygéner. Et donc, là, on est face à un fait qui est plutôt une augmentation notable, continue, directe, que je remarque, que je note derrière dans toutes les analyses de données qu'on a. On voit vraiment une augmentation de la température et ça continue à monter de manière inexorable. Et donc, dans tout ça, on se retrouve avec des cours d'eau qui se retrouvent de plus en plus rapidement soit chauds et donc qui vont générer ce type de problématique. Et donc là, c'est tout de même compliqué de faire face parce qu'on a deux logiques. On a aussi une logique agricole qui explique souvent que cette eau, elle s'écoule et elle part en mer, et que de toutes les façons, on va la perdre. Et on a un peu l'impression que eh bien, cette eau, il faut la retenir avant, parce qu'il y a justement de la sécheresse et qu'il y a des enjeux agricoles très importants. Et le problème, c'est qu'à force d'irriguer en amont, eh bien, on perd des volumes et des quantités très, très importantes. Donc, il va falloir aussi aller vers des solutions différenciées qui consomment moins d'eau, que ce soit dans les espèces ou que ce soit dans la micro-irrigation et dans toutes les solutions agricoles, parce que derrière, c'est un des leviers clés que l'on a avec l'énergie, trouver d'autres formes d'énergie qui justement consommeraient moins cette eau ou la retiendraient moins en amont pour pouvoir retrouver un débit et pour pouvoir redonner de la vie à nos cours d'eau.
Roberto Eplé, est-ce qu'on peut sauver la Loire, vous demande Aude.
Oui, ça fait longtemps qu'on essaie de la sauver. Si elle est encore comme elle est, c'est certainement à cause des engagements de beaucoup, beaucoup de citoyens de Loire-Rivante et beaucoup d'autres associations. Pour répondre à la dame, quand même, d'après ce qu'elle me dit, elle habite entre Saint-Étienne et Roanne. Il faut quand même savoir que sur ce secteur, on a deux grands barrages. Les seuls deux grands barrages qui existent sur le cours principal de la Loire. Ils sont hauts de 80 mètres, grosso genre. Voilà. Et donc, là, par exemple, le premier barrage vers Saint-Étienne, le barrage de Grandjean, eh ben, il stocke de l'eau qui se réchauffe avec de l'eau polluée et que chaque année, il y a un phénomène d'explosion d'algues avec des algues dangereuses, cyanobactéries entre autres. Cette eau, elle va descendre le long de la Loire pour retrouver un autre barrage qui est vers Roanne, le barrage de Villerest, et vous habitez entre les deux. Et entre les deux, il y a aussi de l'agriculture. Hein. Donc, vous voyez, avec un peu un manque d'eau en été, en plus, vous pouvez vraiment avoir un problème là où vous habitez, madame. Alors, pour la sauver...
C'est ça, parce qu'elle demande des solutions.
Il faut des solutions. Adhérer à une des associations, premièrement, engagez-vous, et deuxièmement, eh ben, il faut se battre pour une autre culture. Agriculture, entre autres, il faut se battre contre toutes sortes de pollution, par exemple, venant de la ville de Saint-Étienne, ce n'est pas la seule, il n'y a pas d'autre solution. Et puis arrêter à pomper de l'eau dans les nappes pour une irrigation très souvent exagérée, inutile. Oui. Pas d'autre moyen que cela. Une rivière a besoin de l'eau et elle doit pouvoir courir, sinon ce n'est pas une rivière.
Eh ben, on l'entend, c'est un chantier à long terme pour rendre ces cours d'eau et ces fleuves baignades. Merci beaucoup à nos invités, Emma Aziza, hydrologue, docteur de l'École des Mines de Paris et présidente fondatrice de Mayan. Et puis Roberto Eplé, merci beaucoup, hydrobiologiste et militant, président de l'ONG European River Network et donc de l'association SOS Loire Vivante. Nous avions aussi en ligne Colombe Schneck, merci beaucoup à vous, journaliste et autrice. Tout de suite, c'est la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Ola, j'ai 10 ans. Ma question est, pourquoi on ne peut pas traverser les murs alors que nous sommes tous des atomes? Merci, au revoir.
Et bien, la réponse, ça sera juste après le flash de 20h.